journal, Loïc Barrière. La France a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Dans ce journal, Anouar Gbibesh, ancien président du CFCM, expliquera ce qui a été entrepris pour prévenir la radicalisation. Entretien aussi avec Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, aujourd'hui député, nous dira notamment quels enseignements a tiré la police après ces attaques. À l'issue de la conférence internationale sur la Libye à Paris, Emmanuel Macron a demandé à Ankara et Moscou de retirer leurs mercenaires du territoire libyen. La Russie et la Turquie rejettent toute responsabilité dans l'afflux de migrants à la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie. Enfin, trois étudiants français participent ce dimanche au marathon de Beyrouth pour soutenir l'ONG Alicep qui vient en aide aux malades de la sclérose en plaques. Interview dans ce journal. Des cérémonies en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Ce jour-là, un commando attaquait le Stade de France, des terrasses de restaurants à Paris et le Bataclan. Des attentats qui avaient fait 130 morts et 350 blessés et plongé toute la France dans l'horreur. La maire de Paris et le Premier ministre se sont rendus sur les différents lieux du drame. À noter la présence de la vice-présidente américaine Kamala Harris devant le Carillon, l'un des établissements visés par les terroristes, un anniversaire qui a lieu alors que le procès des auteurs de ces attentats a commencé en septembre. À l'occasion de ce sixième anniversaire, je vous propose d'écouter d'abord l'ancien président du CFCM et président du RMF, Anouar Gbibesh.
Effectivement, ce sont des événements tragiques qui ont secoué notre pays et toute la nation. Donc ce 13 novembre est l'occasion de se remémorer et donc de commémorer ces moments tragiques. C'est également l'occasion de réaffirmer haut et fort notre condamnation claire et nette de cette barbarie qui ne peut se réclamer d'aucune religion et d'aucune valeur morale, puisqu'on a assisté à une tuerie de masse pour la première fois en France, dans la période contemporaine. Et c'est l'occasion également de condamner ces actes barbares, d'abord en tant que citoyens français qui partagent les mêmes malheurs que l'ensemble de leurs compatriotes et l'ensemble de la communauté nationale, mais également en tant que musulmans qui sont profondément choqués que leur religion soit évoquée pour justifier l'injustifiable dans ces actes abominables.
Et depuis ce 13 novembre 2015, beaucoup a été fait pour lutter contre la radicalisation.
Il y a effectivement un certain nombre d'actions qui ont été entreprises dans la foulée de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Et il faut se rappeler que le CFCM que je présidais à l'époque a pris plusieurs initiatives, parmi lesquelles on peut rappeler un prêche du vendredi qui a été généralisé à l'ensemble des mosquées de France. C'était une première. Et le vendredi suivant, donc c'était, je crois, le 21 novembre ou le 20 novembre, l'ensemble des mosquées de France ont été le théâtre d'un prêche commun pour condamner ces actes barbares et pour que la religion musulmane soit vraiment mise à des années-lumière de ces actes de barbarie. Une semaine plus tard, fin novembre, il y a eu un grand rassemblement, une grande manifestation des musulmans de France à l'Institut du Monde Arabe, avec 400 responsables de mosquées, responsables de fédérations et responsables associatifs, en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Monsieur Bernard Cazeneuve, et des représentants de l'ensemble des cultes. Et nous avons proclamé le manifeste citoyen des musulmans de France, qui réaffirmait clairement à nouveau la condamnation de tous ces actes et l'attachement des musulmans de France aux valeurs de la République et au pacte républicain. Et ça a été également l'occasion de lancer la réflexion sur la certification des imams pour que les imams puissent jouer leur rôle d'encadrement et d'orientation de la communauté et des fidèles, et notamment des plus jeunes, et contribuer à les immuniser contre ces germes de violence, voire de terrorisme. Et derrière, il y a eu également un certain nombre de manifestations qui ont été organisées soit par le CFCM, soit par les fédérations qui le composent, avec des colloques, des séminaires de réflexion sur la prévention de la radicalisation et et le fait de pouvoir détecter dès la tuer dans l'œuf toute velléité de violence ou de terrorisme.
Beaucoup a été demandé aux autorités musulmanes de France. Ce que vous dites régulièrement, c'est aussi à toute la société française de se mobiliser contre la radicalisation et pas seulement les autorités musulmanes.
Oui, tout à fait. Je pense que la problématique de la radicalisation est une problématique multidimensionnelle, multifactorielle. Il y a des facteurs d'ordre religieux, il ne faut pas les nier pour pouvoir mieux les combattre. Et ça, effectivement, c'est la responsabilité du culte musulman et des responsables musulmans. Il faut qu'ils assument cette responsabilité. Mais il y a également des origines d'ordre économique, social, voire environnemental, de politique de la ville. Il y a quand même Manuel Valls, qui était à l'époque Premier ministre, qui a dénoncé la ghettoisation ou l'apartheid qui était vécu dans certains quartiers en France, qui n'est quand même pas rien. Et donc il faut que l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit des politiques, des religieux, des acteurs sociaux, prennent chacun sa responsabilité à la hauteur de sa capacité de contribution à juguler ce phénomène de radicalisation.
L'ancien président du CFCM et président du RMF, Anouar Kbibesh. Autre regard sur ce 13 novembre 2015, celui de l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, qui a été l'un des premiers policiers à pénétrer dans le Bataclan le soir des attentats. Il est député La République En Marche depuis 2017. Aujourd'hui, il estime qu'il faut travailler sur le processus de radicalisation. On l'écoute.
L'idée, c'est de savoir, pour moi en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, en amont, non pas, je parle pas de l'organisation là, mais en amont dans la tête des uns et des autres, et ce qui a déclenché tout ça. En réalité, qu'est-ce qu'il y avait avant le terrorisme qui a conduit à tout ça? Quasiment les trois quarts, si ce n'est plus d'ailleurs, des terroristes sont passés par la petite délinquance. Là, on est en train de parler des terroristes que la France produit sur son sol national, parce que sur les affaires du 13 novembre, on avait à la fois un terroriste endémique avec des gens qui étaient sur place et un terrorisme d'importation. Les derniers attentats qu'on a connus ces derniers temps sont quasi uniquement des terroristes endémiques, c'est-à-dire des Français qui sont sur le territoire national et qui se radicalisent et sont des terroristes. Et effectivement, on s'aperçoit que dans cette population-là, ils sont passés par la case délinquance. En réalité, dans leur vie, ils ont été déstructurés par cette délinquance à laquelle on n'a pas su répondre, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas la sanction pénale immédiate qui permet de fixer les lignes. Eh bien, ils ont continué dans cette délinquance-là. Ils ont perdu leurs repères, à la fois les repères de notre société, mais aussi d'autres repères par rapport à leur famille, etc. Et cette perte de repères fait qu'à un certain moment, ils basculent et une espèce d'idéalisation, de sectarisme qui s'opère, qui fait que à ce moment-là, ces délinquants-là se tournent vers ce qui pensent être des règles morales qui leur vont bien, parce que c'est de l'extrémisme, c'est de la violence à l'extrême, la violence des propos, la violence aussi des actes. Ils continuent dans leur ligne de vie violente, dans leur transgression, et ça leur permet aussi de se trouver un justificatif pseudo-moral, pseudo-religieux, pseudo-mental.
La prévention de la radicalisation qui peut mener au terrorisme, elle exige une réponse complexe et longue sur le temps.
D'abord, il y a sans doute plusieurs types de prévention à mettre en place, et ou en tout cas, ces préventions, elles doivent être au plus près et donc individualisées par rapport aux personnes qu'on a en face de nous. Ça exige du temps, ça exige la connaissance de la mentalité de celui qui est en train de basculer, qui n'est pas forcément la même chose que son voisin qui suit la même démarche. Ça demande des prises en compte longues, ça demande des restructurations mentales, ça demande aussi de réinculquer les règles qui sont nécessaires pour toute vie en société, etc.
Vous étiez présent sur place au Bataclan le 13 novembre 2015. La police a beaucoup appris de cet événement tragique. Si un tel attentat se reproduisait, la police agirait différemment?
chaque service a appris et s'est sans doute amélioré, sans aucun doute pour les services de renseignement, les services d'enquête, puisque ces attentats terroristes 13 novembre, c'est des attentats qui étaient aussi des attentats qui venaient de l'extérieur, sur lesquels il y avait du renseignement à échanger. Les coordinations et les coopérations se font beaucoup mieux avec nos pays, les pays européens déjà, je pense en particulier à la Belgique, mais se font aussi beaucoup mieux avec des pays qui en bilatéral, avec des pays qui sont aussi touchés par le terrorisme, et en particulier les pays du Maghreb. Donc oui, on travaille mieux, on fait de meilleurs échanges, de meilleures pratiques sur le RAID en tant que tel. Les process d'intervention ont changé, mais ils avaient déjà changé depuis l'affaire Mohamed Merah, mais on ne donne plus la part à la négociation, puisqu'on sait que ces individus-là rêvent de mourir les armes à la main, donc une négociation pour la reddition ne nous permet que de perdre du temps, et le temps, on en a besoin pour sauver la vie des otages. Que nous, on est dans une société civilisé, qui a des principes démocratiques, qui respecte ces principes, et qui est une société qui essaye, de manière générale, de pas agresser les autres. Donc on est toujours en défense sur ceux qui nous agressent. Les autres, c'est djihadistes, c'est islamistes, les tenants de cet islam politique, eux, sont toujours en attaque sur nous. Et ceux qui attaquent, d'une manière générale, toujours un tas d'avance. Néanmoins, nos services ont déjoué beaucoup, énormément d'attentats. Pour autant, je le redis, la menace existe toujours. C'est surtout une menace endogène. Le fait que ce soit une menace endogène porte en elle aussi des dangers nouveaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un seul individu qui se radicalise relativement rapidement et qui n'échange avec personne, eh bien, il est quasiment invisible des services de renseignement, c'est plus dur à partir du moment où vous échangez pas de connaître les intentions. D'où l'intérêt que chaque citoyen de notre pays aussi participe à ça et n'hésite pas à renseigner, en tout cas, à prêter la main aux services de police et de gendarmerie.
Le député et ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat a été ouverte contre l'homme qui a agressé des policiers à Cannes lundi. Selon la justice, la thèse d'un acte solitaire est privilégiée. Aucun élément de l'enquête ne permet d'établir un lien avec une organisation islamiste pour le moment. Emmanuel Macron a organisé vendredi une conférence internationale sur la Libye. À l'issue de cette réunion, le président français a appelé la Turquie et la Russie à retirer leurs mercenaires de ce pays. Selon Emmanuel Macron, leur présence menace la stabilité et la sécurité du pays et de toute la région. Le président français précise que 300 mercenaires agissant pour le maréchal Haftar se sont déjà retirés. La conférence a apporté son soutien à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre en Libye. La Russie rejette toute responsabilité dans l'afflux de milliers de migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Vladimir Poutine affirme que les dirigeants européens doivent s'adresser directement au président biélorusse Loukachenko pour résoudre cette crise. Une crise qui n'a rien à voir avec la Turquie, affirme de son côté le porte-parole du président Erdogan. Ils s'appellent Jeanne Pavard, Antoine Bouvier et Apolline Convin. Ces trois étudiants français qui vivent actuellement au Liban vont courir le marathon de Beyrouth ce dimanche pour soutenir les malades de la sclérose en plaques. Ils ont également lancé une campagne pour soutenir l'ONG Alicep qui finance le traitement de 700 malades au Liban. On écoute Apolline Convin.
Le marathon, il se déroulera donc à Beyrouth, en plein centre-ville. Et on a décidé dans ce cadre-là de récolter des fonds pour une association qui s'appelle l'ALICEP, qui prend en charge les malades de la sclérose en plaques au Liban, qui sont des malades qui ont vraiment besoin de visibilité parce que c'est une cause qui est peu connue et surtout qui ont besoin de dons parce que les traitements sont très chers.
Pour quelles raisons êtes-vous sensible à cette cause ?
Alors avec Jeanne, une amie avec qui j'ai lancé ce projet, on a voulu s'engager pour cette cause parce que nos deux mamans sont atteintes de la sclérose en plaques. On a pu personnellement souffrir, je pense qu'on peut dire, de ces maladies et voir à quel point ça manquait de visibilité, c'était difficilement pris en charge en France, ce qui est encore plus le cas au Liban, et c'est pour ça qu'on a voulu s'engager au Liban et mettre notre année au Liban au profit de cette cause.
Alors concrètement, de quoi ont besoin les malades de la sclérose en plaques au Liban ?
Alors en premier lieu, je me répète un petit peu, mais je dirais de visibilité, parce que les symptômes sont peu connus et c'est une maladie qui apparaît très jeune chez les patients, entre 20 et 40 ans, et en fait si on est pris en charge rapidement, ça permet de limiter l'évolution de la maladie et donc de l'impact de la maladie au quotidien sur les patients. Et plus concrètement, le Liban traverse une crise économique et sociale presque sans précédent, et ces malades, ils ont vraiment besoin de moyens pour financer leurs traitements, les examens comme les IRM, les ponctions lombaires et les médicaments qui sont très chers et qui ne sont plus remboursés par l'État libanais qui est en faillite. On court dans le cadre du marathon qui a lieu tous les ans, donc il y aura beaucoup de coureurs. Nous, on est une équipe de 40 dans le cadre de notre projet Run for Alicep à courir. Et parmi nous, il y aura également un malade membre de l'Alicep qui s'appelle Christian et qui atteint de la sclérose en plaques et qui va courir le 21 km à nos côtés pour justement repousser ses limites.
On peut rappeler ce qu'est cette maladie, quels sont ses symptômes ?
Bien sûr, c'est une maladie auto-immune qui se développe en général entre 20 et 40 ans et en fait qui atteint le système nerveux central, donc la moelle épinière. En général, ça se voit par des tremblements, des douleurs musculaires, des troubles de la vue aussi. Il y a deux catégories de sclérose en plaques. Il peut y avoir des scléroses en plaques par palier, donc avec des patients qui vont bien et tout d'un coup qui rentrent dans un palier et qui ont beaucoup de problèmes de santé, mais ils peuvent ressortir de ces paliers grâce à des médicaments. Et il y a des cas de sclérose avec une dégradation de la santé plus continue et ces cas-là sont plus difficilement pris en charge. Mais encore une fois, si la maladie est détectée tôt, il y a des médicaments qui existent, non pas pour soigner les malades, parce que c'est une maladie qui ne se soigne pas, mais au moins pour limiter l'évolution de la maladie, et ça permet à certaines personnes de vivre longtemps de manière quasiment normale, malgré, je dirais, peut-être de la fatigue et des douleurs au quotidien. On a lancé une campagne pour une collecte de dons sur les réseaux sociaux il y a déjà 2 semaines. Donc on appelle tous les particuliers, mais aussi des entreprises françaises, libanaises, étrangères, à donner pour cette association. Il y a le lien de notre cagnotte sur toutes nos pages, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc vous pouvez facilement retrouver ce lien sur nos pages. Et les dons sont libres. Oui, Run for Alicep, vous trouverez sur les réseaux sociaux.
Apolline Convin, à l'origine de cette opération baptisée Run for Alicep. Le consulat du Liban à Paris est ouvert ce dimanche de 10h à 15h pour assister les Libanais de France qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales des démarches qui s'inscrivent dans la perspective des législatives prévues en 2022. Cette édition est terminée à 23h, la bibliothèque de Radio Orient avec Nadia Atroubi. Safsaf, elle publie Frères de l'ombre aux éditions Zellige, une émission rediffusée dimanche à 19h. Excellent week-end à tous.